Politica invites you to a free online screening of the award-winning documentary No Visible Trauma, followed by a discussion with directors Rabinder Upal, Mark Francoeur, and special guests Marilan Lopez from the Defund the SPVM Coalition and others to be announced February 28th at 7 p.m. No Visible Trauma thoughtfully explores both the impact of and fight against anti-Black and anti-poverty police violence in Calgary, Alberta, while making crucial links to wider movements against systemic racism across North America. Audiences can stream the film from Friday, February 25th until Tuesday, March 1st, and join us for a free online event February 28th at 7 p.m. For more info, cinemapolitica.org, or find us on social media. This is a CKUT Radio co-presentation.
Tune in to CKUT 90.3 FM, Tuesdays, 3 p.m. to 5 p.m. for a special Black History Month edition of the Montreal Sessions. The month kicks off on February 1st with the best in reggae and soca with your hosts, Production Sounds and Soca Head. Week 2, February 8th, Wizzy Moonchaser, host of The Morning Detour, broadcast live from DG Kicks, a sneaker store in NDG. The final 2 weeks, 15th and 22nd, are hosted by Stephen Ziplocks Hennessy, educator, creator, and part of the Ill Groove Garden team. Don't miss it.
Salut, ici Matt Track, vous écoutez CKUT 90,3 FM.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast juridique Touche pas à mes droits qui traite à chaque 2 semaines des questions de profilage racial. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir des personnes incroyables qui travaillent sur la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle de l'Université d'Ottawa, qui en fait est une chaire de recherche qui est également en collaboration avec la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, bienvenue à la professeure Céline Castet-Renard, professeure Éléonore Fournier-Thon, Edine Grandpierre et Béatrice Allard. Donc, bienvenue à vous toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous aimeriez brièvement vous présenter, un peu présenter votre rôle au sein de la chaire de recherche?
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Lina pour l'introduction. Donc, je suis Céline Castet-Renard, professeure de droit à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche sur l'IA responsable à l'échelle mondiale. Et effectivement, le projet dont nous allons parler ce soir se fait en collaboration avec la clinique juridique de Saint-Michel et relatif à l'utilisation des technologies policières et le profilage racial, et on va se poser en particulier aujourd'hui des questions en lien avec les caméras corporelles et la lutte contre le profilage racial. Donc il me fait plaisir d'être accompagnée ce soir par toutes les chercheuses, les formidables chercheuses qui sont dans ce projet. Je vais leur laisser quelques minutes pour se présenter elles-mêmes.
Merci Céline, donc je peux y aller. Je m'appelle Éléonore Fournier-Toombs. Et puis, je suis scientifique des données, donc ça veut dire que ma formation est vraiment en analyse prédictive et en sciences informatiques pour mieux comprendre les technologies. Donc, mon rôle sur cette chaire, c'est vraiment en tant que... c'est un rôle technologique de vraiment appuyer la recherche sur la compréhension plus en profondeur des données et des technologies. Et puis, donc, ça fait 2 ans que je travaille sur cette chaire avec Céline. Et puis, c'est un grand plaisir aussi d'être rejoint avec nos deux assistantes de recherche.
Oui, donc, moi, je suis une des deux assistantes de recherche. Je m'appelle Béatrice Allard. Je suis en 3e année à l'Université d'Ottawa. Puis, j'ai joint la chaire de recherche cette année. Puis, je suis vraiment contente de travailler sur ce projet-là. J'étais au secondaire à l'école Joseph-François Perrault. Donc, le quartier Saint-Michel est aussi proche à mon cœur. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir faire partie de ce projet-là.
Donc, c'est ça, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Edine Grandpierre. Je suis la deuxième assistante de recherche dans ce projet. Donc, je suis une étudiante de quatrième année à l'Université d'Ottawa en droit civil et en développement international et mondialisation. Ça va faire maintenant un an et deux mois à peu près que je fais partie du projet, puis je suis super enthousiaste à l'idée qu'on a pu concilier et concrétiser ce partenariat avec la clinique juridique de Saint-Michel, à laquelle je suis aussi bénévole depuis maintenant, depuis les tout débuts en fait de la clinique juridique. Donc voilà, puis j'espère que vous allez aimer en fait la discussion de ce soir.
Mais encore une fois, merci beaucoup. Puis c'est ça, Edine, c'est une bénévole de la clinique. Elle a beaucoup travaillé dans le comité profilage racial, donc c'est vraiment cool de pouvoir parler avec vous toutes aujourd'hui. Donc c'est ça, comme ça a été dit un petit peu, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très très intéressant et qui est d'actualité. Donc dans le fond, on va parler des liens à faire entre le profilage racial et l'intelligence artificielle. Puis on va surtout aborder le sujet de l'utilisation des caméras corporelles pour les policiers. Et on va se concentrer sur les points positifs, les points négatifs et toutes les implications que ça amène, que ce soit social, légal. C'est ça, j'aimerais parler un peu du fait que il y a des points positifs et il y a des points négatifs à l'utilisation des caméras. Puis là, on essaye un peu de voir un peu la balance des inconvénients, puis voir est-ce qu'il y a plus de points négatifs, est-ce qu'il y a plus de points positifs, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de certains points positifs quand il est question de l'utilisation des caméras corporelles pour les policiers dans le cadre de leur fonction?
Bien sûr. En ce qui a trait aux points positifs, quant à l'implémentation en fait des caméras corporelles, en fait, on a pu regarder un peu plus en détail le rapport en fait du projet pilote que le SPVM a mis en place et a mis de l'avant durant en fait leur projet pilote de 2016 à 2019. Et certains des points en fait qu'ils étaient mis de l'avant étaient notamment que de mettre en place des caméras corporelles entre les mains des policiers allait permettre en fait au public de mieux comprendre la complexité du travail d'un policier qui se base en fait souvent sur une perspective très subjective. Puis en fait, ce que ça veut dire, c'est que souvent les citoyens, c'est vraiment difficile pour eux de se familiariser en fait avec les opérations policières et de bien saisir quels sont les enjeux en termes de chaque en fait chaque opération, comment elle commence, comment elle doit se terminer, etc., etc. Et surtout au niveau des techniques de travail qui sont utilisées quant à par exemple l'usage de la force dans certaines situations ou pas. Donc avec cette méconnaissance en fait des contextes dans lesquels l'intervention se déroule, ben ça en fait ça permet avec les caméras corporelles essentiellement il a été mis de l'avant que ça permettrait de pouvoir mieux expliquer et mieux démontrer et de venir contextualiser bien sûr pourquoi un policier utiliserait la force ou pourquoi un policier déciderait d'interpeller une personne et de mieux comprendre en fait le processus d'interpellation des policiers en général. Un autre aussi point positif était la consolidation en fait de confiance, de vraiment mettre cet état de confiance entre les policiers et les citoyens. Donc ça c'est un des arguments aussi très très pertinent et vraiment mis de l'avant par plusieurs acteurs pour venir favoriser en fait la transparence des interventions policières qui impliquent en fait un contact direct avec les citoyens comme on le sait. Aussi, un autre argument positif qui était mis de l'avant dans le rapport, c'était vraiment de venir favoriser une grande sécurité des policiers eux-mêmes qui se dotent justement, en se dotant, d'équipements technologiques avancés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pu trouver dans le rapport. Puis si je peux rajouter aussi rapidement, avec quelques recherches par rapport à différentes études effectuées aux États-Unis, mais aussi il y avait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup en fait cette théorie de la dissuasion venant de la connaissance d'être observé. Puis ça, c'est vraiment, ben, notamment des policiers ou des personnes, des agents de la paix, disons, mais aussi des citoyens. Parce qu'aux Pays-Bas, d'ailleurs, dans une étude qui a été faite, on voulait, dans le fond, un des buts de l'implémentation des caméras corporelles était de venir, en fait, dissuader, dans le fond, les citoyens mal intentionnés qui voulaient, en fait, bon, peu importe, là, faire de la violence directement à des agents de la paix. Donc, ça, c'est en principal les grosses, je dirais, points positifs que mettre de l'avant différents acteurs.
Puis en fait, si on regarde l'autre côté de la médaille, il y a également des points négatifs. C'est ça qui fait en sorte que c'est assez difficile de voir si, ben, si ça serait une bonne idée ou pas une bonne idée, comme il y a à peu près autant de points positifs que négatifs. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'autre côté de la médaille, puis un peu, c'est quoi les points négatifs qui ont été soulevés à travers les recherches, à travers l'expérience
oui, absolument.
Des policiers,
Donc, ce que je dirais pour ça, c'est que c'est pas vraiment des points négatifs, mais plus des risques. Et je pense que c'est important de regarder ça de cette façon-là, parce que c'est des choses qui, de toute façon, même si c'est adopté, devraient quand même être prises en considération et vraiment examinées pour s'assurer de pouvoir les diminuer ou les éviter. Et ça, c'est vraiment le cas aussi parce que c'est quand même une technologie assez puissante. Donc, plus c'est puissant comme technologie, plus il y a des risques qui doivent être pris en considération. Et puis, dans ce contexte-là, il y en a pas mal quand même. Je dirais les catégories principales sont, premièrement, le mauvais fonctionnement. Donc, il y a pas mal de recherches qui ont été faites pour démontrer que les caméras elles-mêmes peuvent dysfonctionner et ça peut avoir, comme c'est une utilisation quand même assez tendue et importante, avec des conséquences importantes, ça peut avoir quand même un impact. Les caméras ont tendance à mal fonctionner dans des températures froides, ce qui est quand même important à tenir en considération pour le Canada. Il y a eu pas mal de difficultés aussi avec des dysfonctions du bouton en marche ou arrêt. Ça a un impact sur est-ce que la vidéo est bien enregistrée ou pas. Et puis parfois, des problèmes de batterie, des problèmes de luminosité. Ensuite, il y a une catégorie de risque, c'est la perspective. Donc, la vidéo est prise par l'agent de police. L'angle ou la direction de la vidéo peut être mauvaise. Par exemple, il peut tourner sa tête, mais c'est une caméra attachée à son corps et son corps est dans une autre direction. La perspective ou la distance, la vitesse d'approche peut être mal perçue par la caméra. Et puis la caméra peut aussi être bloquée par les mains, particulièrement si le policier lève ses mains. Donc dans une situation vraiment très conflictuelle, ça peut arriver et ça arrive que l'agent de police bloque complètement la vidéo. Ensuite, certaines recherches, donc ça a été mis en œuvre beaucoup aux États-Unis, et certaines recherches montrent que, en fait, plutôt que de diminuer les tensions avec les agents de police, ça peut augmenter les tensions et des deux parties. Donc, on a remarqué que ça peut, en fait, créer des réactions excessives de la part des policiers. Donc, sachant qu'ils sont enregistrés, ils peuvent eux-mêmes augmenter leurs tensions et puis réagir d'une façon dont possiblement ils ne feraient pas sans la caméra. Et aussi, ça peut augmenter les cas d'agression envers les policiers. Donc, si on filme des gens, par exemple, s'ils ont bu de l'alcool ou s'ils ont consommé de la drogue, et ils veulent pas être filmés, la tension peut être beaucoup plus élevée s'ils savent qu'ils sont filmés. Et puis, finalement, il y a pas mal de risques en termes de cybersécurité. Donc, si on prend en compte que beaucoup, beaucoup de données vont être collectées par ces caméras, et non seulement des données d'une personne qui est appréhendée par la police, mais de toutes sortes de personnes qui se promènent dans la rue, qui sont là autour, qui passent dans l'angle de vue de la caméra. Est-ce qu'il y a un plan à travers le Canada ou même juste à Montréal pour gérer ces données-là? C'est vraiment, ça va être beaucoup de volume. Est-ce qu'on peut protéger ces données-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de vol de données? Est-ce qu'elles vont être stockées d'une façon sécure? Est-ce que les policiers peuvent prendre les vidéos puis les publier sans l'accord des personnes impliquées? Donc, c'est toutes sortes de risques qui ne sont pas vraiment pris en compte en ce moment dans le développement de ces technologies-là par les politiciens.
Puis je pense que ces risques-là que vous nommez, que vous avez bien expliqué, ben en fait, ça va toucher ça va venir toucher des considérations éthiques, des considérations légales. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de se questionner là-dessus avant même de réellement comme sauter dans l'idée d'avoir des caméras pour tous les policiers, par exemple. Puis, j'aimerais revenir un peu sur la question de la perspective. On voit une caméra comme étant un objet neutre. Donc, c'est juste un objet qui va filmer, il va filmer la réalité, il va filmer des faits, etc. Mais à cause des problèmes, justement, de perspective, c'est pas vraiment le cas. Donc, est-ce que vous pourriez un peu plus nous parler du fait que, en fait, la perspective, il y a un problème dans le sens que, comme vous l'avez mentionné, si un policier tourne sa tête et que la caméra suit pas, ben là, déjà, il y a un problème de perspective. Mais en plus de ça, est-ce que réellement la caméra, l'image captée par les caméras, est-ce qu'elles sont réellement neutres?
Moi, je peux rentrer dans la conversation pour parler de ça. Je pense que quand tu dis le mot neutre, moi, ce que j'entends, c'est le niveau de l'objectivité, en fait, de ce qu'on est en train de filmer. Donc, on peut penser, bon, le policier est sur la scène de l'interaction, participe à l'interaction, puis ce qui est filmé, donc, c'est... ça nous donne vraiment un portrait de ce qui s'est passé, un portrait qui est authentique, qui nous raconte toute l'histoire, puis qui est transparent, neutre, tous les termes qu'on peut utiliser qui vont en ce sens-là. Dans le fond, il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur cette question-là, vraiment sur l'objectivité de la preuve vidéo, puis on se rend compte que c'est pas aussi objectif qu'on voudrait que ça soit. Il y a déjà en 2009, un procès qui s'est déroulé en Cour suprême aux États-Unis qui venait d'un circuit inférieur où les juges avaient évalué une preuve vidéo d'une poursuite policière entre un motocycliste et un policier qui s'était vraiment mal fini parce que le motocycliste était rendu maintenant quadraplégique. Puis le circuit inférieur avait dit, ben clairement, on voit dans cette vidéo-là que le policier a eu un comportement extrêmement dangereux et est rentré dans le véhicule du motocycliste. Puis c'est pour ça que la personne aujourd'hui a plus l'usage mobile. Puis quand on est arrivé à la Cour suprême, les juges de la Cour suprême disent, ben non, il n'y a aucun juriste raisonnable qui pourrait avoir cette interprétation des faits. Clairement, le motocycliste avait la conduite dangereuse et c'est ça qui a causé l'accident. Donc, vraiment, une version des faits tellement différente à partir d'une même vidéo que finalement, l'appel a été accueilli. Puis, un des risques avec ça, c'est que quand on regarde une vidéo puis qu'on utilise nos sens pour l'interpréter, on est tellement convaincu de l'objectivité de notre propre interprétation qu'on se dit, ben tout le monde va regarder la vidéo de la même façon que moi, je la vois. Donc, non seulement la preuve n'est pas tellement objective, mais nous-mêmes, on subit ce biais-là de ne pas se dire, moi, c'est ça que je vois, mais tu sais, en même temps, c'est subjectif. Non, on se dit, c'est ça que je vois, puis c'est évident que tout le monde va le voir de la même façon que moi. Donc, même des juges extrêmement savants et expérimentés de la Cour d'appel, c'est pas exactement comme ça que ça se passe aux États-Unis, mais mettons qu'on prend un framework canadien, de la Cour d'appel et de la Cour suprême n'avaient pas la même interprétation factuelle d'une même vidéo. Ensuite, il y a aussi le fait que des fois, c'est pas juste la même vidéo, mais c'est le fait que différentes vidéos peuvent nous apporter différentes perspectives. Donc, il y a eu aussi une autre arrestation aux États-Unis où, au début du procès, on avait juste accès à la vidéo du policier. Mais une fois qu'on a aussi eu accès à des caméras du style CCTV dans le stationnement, puis qu'on voyait de haut ce qui s'était passé, on voyait très bien que la personne n'avait pas opposé de résistance, qu'elle avait, puis que donc l'usage de la force des policiers était complètement disproportionné. Mais on n'aurait pas pu être capable de dire ça avec la perspective de la caméra qui bouge, puis on voit pas nécessairement si la personne reste immobile, puis vraiment se laisse les policiers faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a encore là plusieurs façons dont la preuve vidéo peut se révéler pas aussi objective qu'on voudrait qu'elle le soit.
Puis je trouve ça très, très intéressant que tu soulèves le point que la manière dont nous, on regarde une vidéo, on se dit dans notre tête que tout le monde la voit de la même façon. Alors que comme tu viens de l'expliquer en parlant par exemple, de l'arrêt aux États-Unis, ben, clairement, mm-hmm. c'est pas le cas. Clairement, on regarde pas tous les vidéos.
Exact.
De la même
je voudrais
façon.
Rajouter un petit Donc, truc là-dessus. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on. En fait, une étude qui a été faite sur ce cas précis-là en 2009 aux États-Unis démontrait aussi, parce qu'ensuite, il y a des chercheurs de Harvard qui ont pris ce procès-là puis qui ont montré la vidéo à plusieurs justiciables, donc pas seulement des juges, pour demander, ben, vous seriez allé vers l'opinion des juges de la Cour suprême ou vers l'opinion des juges du 11e circuit. Et puis, les réponses ont été extrêmement variées, puis ils étaient capables de catégoriser un peu les réactions des gens par rapport à des facteurs comme leurs revenus, leurs opinions politiques, leur groupe ethnique. Donc, les personnes qui étaient afro-américaines, à faible revenu, qui s'identifiaient comme démocrates, avaient beaucoup plus tendance à dire « clairement, c'est la faute du policier ». Donc, on voit qu'il y a même une politisation de la preuve ici, puis que donc on se dit « on est tellement objectif », mais ça peut venir de nos expériences vécues avec pour qu'on regarde ces vidéos-là.
Mmh. Oui, puis ça mène à parler aussi des tensions un peu que ça peut causer ce genre de caméra. Donc, on a dit au début que les caméras, ça pourrait favoriser une plus grande sécurité des policiers en cas de danger, ça pourrait consolider le lien de confiance. Mais professeur Eleanor, elle a très bien mentionné que ça peut aussi augmenter les tensions. Donc, non seulement ça pourrait augmenter les tensions, mais est-ce que vous pensez que l'utilisation des caméras, ça pourrait même mener à une sorte d'auto-censure, donc à de la part des policiers, donc à une différence d'agissement, comme ils sont au courant d'être filmés, est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'ils agissent soit d'une manière, une meilleure façon, soit de manière au contraire
plus
violente?
Mais ça, je pense que
violente.
C'est vraiment difficile de dire parce que ça dépend peut-être des agents de police. Comme on a vu, on peut avoir vraiment l'attente que les agents de police vont diminuer en fait leur agressivité s'ils sont filmés. Je pense que beaucoup de gens ont cette attente-là. Mais d'après les recherches et les pilotes qui ont été faits à travers les États-Unis et le Canada, c'est pas nécessairement le cas. Et puis d'ailleurs, on a vu que dans certaines situations, ils augmentaient l'agressivité. Généralement, on voit qu'il n'y a pas de changement en fait dans leur comportement. Donc une fois qu'ils s'habituent à être filmés tout le temps, ils agissent plus ou moins de la même façon. Mais c'est sûr que c'est difficile de savoir exactement pour chaque policier s'il va avoir un impact ou pas, ou dans certaines situations. C'est définitivement à voir. Mais c'est pas quelque chose qui est automatique que les policiers vont être plus, moins agressifs s'ils sont filmés.
Je rajouterais à ça aussi, si je peux me permettre, que ça va dépendre. Une des variantes qui peut avoir un impact sur est-ce que la présence des caméras va faire réduire les violences policières, c'est quoi les politiques d'activation? Donc si, oui, on a des caméras corporelles, mais les policiers ont la discrétion de l'allumer, ils vont clairement pas l'allumer dans les moments où l'après vidéo serait le plus bénéfique. Mais si on a une caméra corporelle qui enregistre en continu, les résultats sont un peu meilleurs.
Ouais, ça c'est vrai que à ce niveau-là, si chaque district, chaque département de police a des, on va dire, a des règlements différents par rapport à ça, ben c'est sûr que ça va donner des résultats très différents. Puis justement, vous avez mentionné que l'utilisation des caméras, ça va pas nécessairement changer le comportement des policiers, c'est un peu... on peut pas vraiment dire que ça le changerait tout le temps ou que ça changerait pas. Mais justement, il y a de plus en plus d'études dites neutres qui commencent à s'accumuler concernant les caméras portatives. Donc, au Canada, par exemple, les services de police d'Edmonton, en 2015, ont mené un projet pilote. Les services de police de Toronto, en 2016, et le service de police de Montréal, en 2019. Et en fait, les trois n'ont pas observé vraiment de changement radical lors de leur projet pilote. Donc, est-ce que vous auriez des commentaires par rapport à ces résultats-là qui nous disent en fait que l'utilisation des caméras corporelles n'a pas vraiment donné les résultats escomptés, ou en fait c'est comme neutre.
Oui, ben,
un peu,
en fait ça dépend vraiment,
ça change pas grand
chose
en fait.
Mesurer. Et puis ça, c'est vraiment une chose qui est super importante dans ce cas là c'est que c'est présenté comme façon de diminuer les tensions raciales et le profilage racial. Et quand on essaye de consulter la population pour voir s'ils sont d'accord ou pas d'avoir les caméras portatives, on ne demande pas particulièrement à des populations qui sont touchées directement par le profilage racial, on demande un peu à tout le monde. Et tenir en compte que la majorité des populations, par exemple à Montréal, ne vont avoir aucune interaction avec la police au cours de l'année. Donc, ils ne sont pas vraiment touchés. Donc, si le policier porte une caméra ou pas, ce n'est pas vraiment important pour eux. Donc, si on leur dit « Ah, ça va diminuer les tensions », s'ils ne sont pas touchés par ça, ils auraient tendance à être plutôt d'accord. Donc, après ça, est-ce que... les populations donc, qui vont se toucher sont vraiment consultées. Et après ça, est-ce qu'il y a un bon suivi de l'impact sur ces populations-là au courant du pilote? Et je pense que c'est intéressant de voir effectivement que ça n'a pas eu d'impact particulier sur le profilage racial. Mais en même temps, je pense que la question n'est pas très bien cadrée dans le contexte de ces pilotes parce que ce soit dans la mise en œuvre ou au courant ou même dans les consultations avant, on ne pose pas vraiment les questions, on n'a pas vraiment de façon d'ajuster un peu les programmes pour s'assurer que ça a un impact positif sur les populations qui sont visées par ça. Donc, il y a comme un effet de disconnect, c'est entre ce qu'on dit, ce que les politiciens disent, que c'est ça va diminuer le profilage racial, ça va améliorer les tensions avec la police des populations racisées, et la mise en œuvre qui est, tous les policiers vont le mettre, et puis ça va être pareil, l'impact va être pareil pour tout le monde, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc j'aurais tendance à dire que pour ces projets pilotes-là, je ne suis pas nécessairement surpris qu'ils ont observé de ne pas vraiment avoir d'impact. Par contre, je dirais que ça dépend vraiment comment c'est mesuré aussi, et que j'ai tendance à penser que peut-être qu'on n'a même pas du tout mesuré l'impact réel sur les populations qui aurait pu être même négatif.
Mm-hmm. Oui, je pense que c'est ça, c'est d'avoir un cadre qui est précis, qui est clair, justement pour éviter tout ces genres de problèmes-là. Puis justement, vous parliez un petit peu des problèmes que ça causerait en termes de preuves, mais justement, ça cause aussi... ça soulève aussi le sujet de l'accès à la justice. Donc, on se demande, OK, on a des enregistrements, on a des vidéos, mais est-ce que l'obtention de ces enregistrements, comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va être plus difficile pour les justiciables d'obtenir ces preuves-là? Est-ce que les procédures d'obtention vont être... ça va être long? Est-ce que ça va requérir des longues négociations avec les autorités? Est-ce que les autorités, eux, auront une plus grande accessibilité à cette preuve-là? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des complications que ça amènerait au niveau des procédures civiles ou pénales d'obtenir ce type de preuves? Puis est-ce que, en termes de preuves, justement, ça ne perpétue pas un certain déséquilibre de pouvoir comme le justiciable aura peut-être pas accès et peut-être que les forces de l'ordre, eux, auront facilement accès
à tous les enregistrements? Oui, c'est une question vraiment en fait. Intéressante et cruciale. Tu as dit juste avant qu'il faut qu'on ait un cadre précis et clair. Ça, c'est un des enjeux juridiques qui demande vraiment à ce qu'on se penche sur le sujet avant d'avoir des caméras corporelles. Donc, tu as mentionné civil ou pénal, en effet, il y a différents groupes de personnes qui pourraient vouloir avoir accès à des enregistrements par caméra corporelle. Donc, moi, dans ma compréhension, je divise ces gens-là en trois groupes. Premier groupe, des accusés ou criminels. Deuxième groupe, des civils qui ont été en interaction avec la police, qui n'ont pas mené à des accusations criminelles de leur côté, mais eux voudraient porter plainte soit aux civils en dommages d'intérêt ou encore à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Puis finalement, le troisième groupe, le grand public. La clinique pourrait vouloir avoir accès à une large banque de données d'interaction policière pour faire un certain projet de recherche, ou encore des journalistes pourraient vouloir avoir accès à une interaction policière où ils n'ont aucun rapport puis ils n'étaient pas là. Donc, ces groupes vont faire face à certains obstacles similaires, puis des fois des obstacles tout à fait différents. Donc, je dirais que le premier problème qui peut survenir, c'est le problème de la rétention de la preuve. Céline, on a parlé il y a quelques minutes, là, elle a dit que c'est un enjeu de vie privée si on garde la preuve trop longtemps. Mais en même temps, si on la garde pas assez longtemps, est-ce que ça peut aussi venir poser un obstacle pour l'accès à la preuve? Donc, si un policier a une interaction avec le civil veut porter plainte, veut avoir accès au footage de cette interaction-là, mais la preuve est déjà détruite. Là, on vient encore une fois de venir compromettre un de nos objectifs qui était la transparence puis la responsabilité. Puis ça, c'est un problème qui va survenir des fois parce que dans plusieurs juridictions ou bien États américains, on a délégué la tâche de développer les politiques qui encadrent l'utilisation des caméras corporelles directement aux services de police. Donc peut-être que les services de police ont pas en tête ces enjeux-là, mais dire ben peut-être que des gens vont le vouloir, fait que c'est pas juste nous qui revenons de notre corps de travail qu'on regarde les vidéos de la journée puis on décide ce qu'on jette puis ce qu'on garde, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des demandes puis on le sait pas encore, tu sais. Donc la question de qui va développer les politiques de rétention puis combien de temps ces rétentions-là vont être faites. Donc le premier problème, c'est qu'on peut avoir aucune politique de rétention puis que les services de police n'ont aucune obligation de garder la preuve pendant un certain temps. Aux États-Unis, il y a un standard assez dangereux qui s'est créé là-dessus. C'est le standard qui est venu de l'arrêt Youngblood versus Arizona, qui a dit que lorsque la police détruit en entier ou partiellement de la preuve que quelqu'un aurait voulu recevoir parce que ça les concernait, il faut que cette personne-là prouve la mauvaise foi du service de police pour que ça amène à un abandon des charges. Mais c'est un fardeau de preuve qui est extrêmement élevé pour le justiciable. Puis les États qui n'ont pas adopté ce standard-là vont dire « Ok, ben si on n'a pas cette preuve-là, on va dire au jury qu'il y a une preuve manquante puis qu'ils peuvent assumer que ça aurait été favorable pour le justiciable, mais on s'amène pas à un abandon de charge. Donc ça peut être vraiment problématique. Ensuite, on peut avoir des politiques qui sont insuffisantes. Par exemple, Albuquerque, ils avaient une politique de rétention qui spécifiait que les policiers pouvaient effacer les vidéos qu'ils voulaient à la fin de leur corps de travail, puis qu'ils gardaient le reste. Fait que là, ça donne vraiment un pouvoir aux policiers de carrément manipuler de la preuve. Fait que, OK, on a une politique de rétention, mais est-ce que vraiment elle permet aux justiciables d'avoir accès à la preuve? Non. Finalement, pour le grand public, il y a beaucoup d'États américains qui disent tout ce qui est caméra corporelle, ça fait pas partie d'une demande d'accès à l'information, qui est le principal canal de l'accès à l'information dans nos systèmes juridiques. Donc, si on décide qu'on peut pas y avoir accès de cette façon-là, ça peut être compliqué pour des cliniques juridiques comme la clinique juridique Saint-Michel ou des médias d'avoir accès ou encore des chaires de recherche, d'avoir accès à des captations qui les concernent pas. Puis finalement, pour les accusés, dans le système criminel, là, évidemment, je peux seulement parler des États-Unis parce que c'est là qu'on a des données, parce que les caméras corporelles sont implantées depuis longtemps. Il y a différents obstacles. Donc, généralement, quand la preuve est vraiment disculpatoire ou inculpatoire, c'est admis en droit constitutionnel américain que l'accusé y a droit. Mais lorsque c'est pas... c'est un peu neutre, comme c'est ni inculpatoire ni disculpatoire, mais ça pourrait être utile dans la stratégie de l'avocat d'y avoir accès. Là, ça peut être plus complexe. Puis peut-être que la divulgation va se faire en cours de procès à un moment où c'est plus utile pour l'accusé de l'avoir, alors que le côté des procureurs, des policiers l'ont eu tout du long. Ensuite, il y a une question où... ça s'intercoupe avec la question de la vie privée. Lorsqu'il y a des témoins, est-ce que c'est les avocats des policiers peuvent dire ben là il y a des témoins, ça va mettre en jeu leur vie privée, donc on vous donne pas la vidéo. Donc ça peut être aussi un obstacle pour les accusés d'avoir accès. Puis finalement, il peut avoir des questions de quand la captation est très très longue, les policiers peuvent dire ben ok, on va vous donner les bouts, vous êtes là. Mais le 3 heures où on est en train de jaser de l'interpellation dans notre voiture, ben vous êtes pas là. on vous donne pas ces bouts-là de conversation, tu sais, qui pourraient nous aider ou des affaires comme ça. Ou encore de la scène de crime si l'accusé est déjà rendu au poste. Mais qu'on voit encore la scène de crime, des témoins, des victimes sur la scène de crime. Donc, il y a plusieurs obstacles procéduraux pour les accusés pour avoir de la preuve qui n'est pas complètement inculpatoire ou disculpatoire. Puis je pense que c'est des angles morts qu'il va vraiment falloir avoir en tête si on décide d'avoir des caméras corporelles dans nos systèmes de police canadiens, parce que c'est des choses qui pourraient se répliquer dans nos systèmes de justice.
Oui, ben je voulais juste rajouter rapidement, en fait, aussi, en ce qui a trait, ben c'est sûr, là, on discutait beaucoup, dans le fond, des enjeux, beaucoup en termes d'avoir accès, dans le fond, aux différentes données, en fait, des caméras, des enregistrements des caméras corporelles. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a certaines études aussi aux États-Unis qui sont venues mettre de l'avant, en fait, l'enjeu des troisièmes parties, on peut les appeler comme ça, disons, qui sont des parties privées qui veulent avoir accès, en fait, à ces données-là en achetant directement, dans le fond, ces données des mains des policiers. Puis là, on peut vraiment faire l'intersection avec l'enjeu de la vie privée et du pourquoi certaines parties gouvernementales ou des parties, en fait, l'intersection, où est-ce qu'elle est vraiment pertinente, c'est aussi avec l'augmentation des différentes technologies telles que, par exemple, la reconnaissance faciale qui monte beaucoup. Donc, c'est sûr que des parties, dans le fond, qui travaillent ou qui font vraiment leur argent avec des données biométriques de la sorte vont vouloir, en fait, acheter certaines, en fait, enregistrements, en fait, pris par les caméras corporelles. Fait qu'on peut aussi se poser la question sur le fait que ce soit les policiers, dans le fond, qui détiennent ces enregistrements-là, ces données-là. Ben, est-ce que aussi ça peut être mis entre les mains de d'autres parties et venir causer un autre enjeu au niveau de la vie privée. Donc, je voulais juste apporter le point aussi que c'est un enjeu qui est beaucoup, en fait, discuté aux États-Unis et qui peut venir, en fait, détruire puis vraiment se mettre en relation avec les enjeux discriminatoires, discriminaux, sociaux et de racisme aussi dans nos différentes sociétés. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte.
Absolument. Puis j'aimerais peut-être qu'on garde en tête que vous avez beaucoup parlé d'études qui ont été faites aux États-Unis. Comme Béatrice l'a dit, c'est souvent là qu'il y a, ça fait plus longtemps que c'est implémenté. Et je trouve que ça aussi, ça nous en dit beaucoup parce que dans le sens qu'au Canada, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc j'imagine toute la pertinence de faire de la recherche au Canada puis comment ça affecte les citoyens et les policiers au Canada. Pour le petit mot de la fin, j'aimerais vous poser une question un peu large. En fait, ce serait de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres réformes qui seraient pertinentes et qui devraient être mises de l'avant avant de vraiment mettre de l'avant l'utilisation des caméras corporelles? Est-ce qu'il y aurait d'autres étapes à franchir avant de se lancer dans les caméras corporelles?
Plus spécifiquement, caméras corporelles pour tenter, en guillemets, de réduire dans le fond, le profilage racial ou, en fait, de l'éradiquer. Il faut qu'on fasse un peu attention parce que la lutte, en fait, contre le profilage racial découle, disons, déjà à la base d'enjeux sociaux, structuraux, d'enjeux systématiques surtout, et de vraiment, vraiment se concentrer sur ces, dans le fond, perspectives-là très sociales, très structurelles, et de se demander essentiellement est-ce que vraiment les technologies, dans le fond, les technologies vues comme on en a discuté comme neutres, viendraient vraiment diminuer ou même éradiquer le profilage racial, le racisme, la discrimination. Puis ça, dans le fond, c'est la question à vraiment se demander. Donc, moi, ça, ce serait une des réformes, je dirais, qui pourrait être mise en place avant les caméras corporelles, c'est de, si le but vraiment est de lutter contre le profilage racial, c'est sûr que comme de se concentrer sur les enjeux sociaux, les enjeux structuraux et les enjeux systématiques avant de penser, en fait, à implémenter des matériaux technologiques. Puis sinon, si tu me permets peut-être de comme un peu, disons, rephraser un peu ta question, ce que je dirais, c'est que une des bonnes questions qu'on pourrait se demander, c'est quelles seraient les recommandations par rapport à l'implémentation des caméras corporelles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, OK, les caméras corporelles ont un bon vouloir, disons, pourraient potentiellement diminuer certains enjeux de profilage racial, mais avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, je pense qu'il va falloir que notre système juridique canadien prenne le temps de vraiment mettre en place des politiques qui sont adaptées à notre système judiciaire, mais bien sûr qui en pratique fonctionne, mais aussi pas justement pas juste au niveau théorique, mais qui fonctionne aussi en pratique, et que ce soit non seulement les policiers qui utilisent les caméras, mais aussi toutes les parties, en fait, toutes les parties qui ont un intérêt envers ces caméras corporelles-là puissent avoir des obligations et des devoirs par rapport, en fait, à ces différentes aux différents enjeux, en fait, qui entourent l'utilisation de caméras corporelles par des agents de la paix. Donc ça, ce serait comme en général, c'est sur la question à vraiment se poser, de faire des recherches comme aux États-Unis, c'est vraiment beaucoup documenté. Donc nous aussi, de pas juste se précipiter et de vouloir mettre des caméras corporelles sans penser aux enjeux juridiques, sans penser aux enjeux au niveau de la rétention de la preuve, sans penser à tous ces enjeux, notamment au niveau de la vie privée. Donc, moi, c'est ça pour la question.
Mais je trouve ça vraiment intéressant aussi que tu mettes l'emphase sur en fait, c'est quoi qu'on essaie de faire, c'est quoi le résultat qu'on veut atteindre. Puis en pensant à ce résultat-là, donc par exemple éradiquer le profilage racial, ben là on peut prendre les moyens pour le faire. Donc je trouve ça intéressant comme façon de voir la chose. Je sais pas si professeur Céline ou Éléonore, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter?
Oui, pour terminer, finalement, synthétiser ce que nous essayons de faire dans ce projet, ça n'est pas de d'entrer dans les débats pour ou contre les caméras corporelles, parce que c'est un débat trop clivant et sans doute trop politisé. Je pense que les vraies questions à se poser est de savoir pourquoi on veut le mettre en place, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça. Est-ce que c'est vraiment pour lutter contre le profilage racial ou le racisme systémique, ou est-ce que c'est un moyen comme un autre d'essayer de mettre le sujet sous le tapis et de se dire bon bah on fait ça et puis après on a réglé le problème. Est-ce que il faut faire attention au fait que ces caméras soient pas considérées comme des moyens de redevabilité trop faciles de la police? C'est un petit peu la crainte de départ que l'on a, et c'est un petit peu l'idée du solutionnisme technologique, d'aller chercher des solutions dans les technologies pour répondre à des problèmes sociaux et de se dire bah ça va être un peu magique avec ça, on va répondre au problème. Donc, est-ce que c'est vraiment ça le principal objectif à atteindre? Éléonore en a parlé, dit, vient juste de nous expliquer aussi tous les aspects sociaux à prendre en compte pour trouver d'autres solutions. Et d'un point de vue purement juridique, je dirais que le cadre légal canadien n'est pas du tout mûr et pas du tout prêt pour accueillir les caméras corporelles, parce qu'on sait. On ne s'est posé finalement aucune des questions. On se les est peut-être posées, mais en tout cas, on n'a pas de réponse légale sur le cadre qu'il faudrait mettre en place. Donc, si on doit faire une seule recommandation policymakers aux législateurs aujourd'hui, ce serait de dire pensons d'abord les risques et le cadre légal avant le déploiement, et non pas déployons et voyons ce que ça donne après, parce que on n'est vraiment pas sûr, un, que ça permette de résoudre les problèmes, et en particulier ceux de racisme systémique. Mais ce dont on est sûr, c'est que certainement, on en générera d'autres si on n'a pas pris les précautions. Donc, on a évoqué aujourd'hui tout un certain nombre de risques qui seront nécessairement générés si on n'a pas posé les questions en amont et si on n'a pas cherché à éliminer ces risques.
Je pense que ça conclut très très bien la belle discussion qu'on vient d'avoir, donc de penser les risques, de penser aux enjeux que ça met en place. Donc j'aimerais vraiment vous remercier. Merci votre vulgarisation de toutes ces informations-là qui peuvent être assez complexes à comprendre, pour vos belles explications. Et puis, j'aimerais juste vous remercier d'avoir participé au podcast avec nous. Merci à Edine, avec
Merci
qui j'ai la
toi,
chance
Lina,
de travailler à la clinique. Ça. Et puis, au plaisir de travailler avec vous dans le cadre d'un autre projet, peut-être.
Merci beaucoup, Lina, pour la belle discussion.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Banque TD sont fiers de vous annoncer l'événement « Les nouveaux visages de l'Afro-Jazz ». Une soirée de concerts à ne pas manquer, qui nous fera voyager à Cuba, en Côte d'Ivoire et en Guadeloupe, avec Démé Arosena, Donald Dogbo et Topion. Diffusé en direct sur la page Facebook de Nuit d'Afrique, le jeudi 24 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leur communication par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org. kumbit.org. On n'est pas sur Facebook.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
by stats. Prison is a gold mine camp with no buybacks. Nigga, it's a wizard in the system holding all my blacks. It started in 1640. Shackles around my ankles. Melanin meant that I can't go to schools or read, cause who's gonna serve my master? Also, the pastor described all my people as the sheep who exist to upkeep the land. We feed the economy, creep all the crops, but then feed on it modestly, consciously knowing you're lesser than. And lighter skin means that you're better now. So you in the house taking whips and probably dick, cause well, you a fetish now. Meanwhile, I'm grateful for all that I'm given. I'm picking this cotton in rhythm. I pray for a lot of the living. Escaping is probably a sin, and if God ever finds out that I want my freedom, well damn, then God's gonna call in the rap. Two horses with opposite maps. Those nooses, they up in the trees and I'm hanging, but I'll never fall like my pants. Then came the 13th Amendment, written in 1865. It says slavery is over, except it's paid for doing crime. And then the things that they made illegal are things you associate with people who now education isn't equal, and they getting paid enough to eat, so we stealing and jugging and shit. We need to be fully equipped. The system, the new slave master, brought in to stop us and bullying shit. Cause before we was stealing and jugging, the laws we was breaking was loitering. We go to the bend and we can't pay the fine. Now the jail is who your employer is. This voyage is super intentional. You used to be students in medical. The Moors and indigenous blacks were the smartest and honestly truest professionals, literally teaching you about chemicals. My history isn't viewed on a pedestal. Try to tell me only few of my ancestors had anything to offer. If we wasn't strong, you would never bother. If we wasn't awesome, you'd never put all of your resources in just to get to conquer. If we ain't a problem, then why would you want all the youngins who black not to have a father? Cause slavery showed black youth for mad years that whiteness is right. Your ma getting fucked, your dad getting whipped, but white is the light. And sometimes master blesses you for being a good slave and kills you off if you a bad one. So black mothers tell their daughters fuck the master, and they tell their sons they can't run. Mama raised the girls independent, and she raised her boys out of fear. These days black women representing the struggle that these black boys trying to clear. Man, we have so much work to do.
CKUT is a messenger, teaching the youth about roots and culture, and tell the masses them to remember Jah. That's all I need when I am. Well, CKUT is a messenger, teaching the youth about roots and culture, and tell the masses them to remember Jah. That's all I need when I am. Well, 90.3 FM. It's CKUT, the cultural radio station. Radio McGill. Blessed love. The messenger. Take it away.
Ever feel kind of down out, you don't know just what to do. Living all your days in darkness with the sunshine through. Ever feel that somehow, somewhere you've lost your way? And if you don't get help quick, you won't make it through the day. Could you call on Lady Day?
You can call on John Coltrane.
Cause there was your trouble.
Troubles
away.
Plastic people with plastic minds on the way to plastic homes.
No beginning, there ain't no end. Just on and on and on and on it is.
All because they're so afraid to sit there alone.
Until our hero rising on his saxophone. Yeah.
You can call on Lady Day.
Could you call on John Coltrane?
And then wash
the
troubles away.
Cause I always feel like
I
let them wash your troubles away.
show troubles away.
My mind dwelling, Lauren H. Bill J. Troubles away.
It's midnight at the Oasis. Got some two-bit card game to play. And it's pretty bright from the city lights. Spin it midnight into the day. In the desert nights are colder than expected for this time, they say. But it's midnight at the Oasis. Drunk to stay. I stumbled along down Fremont Street. I found a sister with nothing to wear. She got off a split shift and needed a lift. And there ain't much going down there. So I walked. I wasn't interested in paying her fare. Well, it's midnight at the Oasis, and I'm way too drunk to care.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.
The following is a previously broadcast program.
Hi, Eric Marcus here with the Making Gay History podcast. Each week we take a deep dive into my stack of decades-old audio cassettes to share with you the voices of LGBTQ history. In our first episode, you'll meet Sylvia Rivera. She was an iconic trans activist who also happened to be at Stonewall in 1969, June 28th, the night of the big uprising. I'll never forget seeing Sylvia for the first time. I was standing in the entry hall of her tenement building in a small river town in New York. And she was standing at the top of a rickety staircase in the glare of a bare light bulb. She had these really